Hi, this is Lee Fields, and you're listening to Pop, Pop, Pop. Pop, 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 Sebastis.
Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je me demande si je n'ai pas pris un petit coup de vieux, et je dis ça sans la moindre illusion, puisque les 50 dont parle Franck Dubosc dans son nouveau spectacle ne sont déjà plus pour moi qu'un souvenir, un rivage lointain dont s'est éloigné depuis longtemps le paquebot de mon existence. Paquebot auquel je prédis, hélas, comme à nous tous d'ailleurs, et c'est là ma seule consolation, un avenir titanesque. Oui, j'ai pris un coup de vieux, au prétexte que nous sommes le 1er avril. Un enfant s'est amusé ce matin à m'accrocher un poisson dans le dos, tradition drôlatique qui remonte à une époque lointaine où le poisson devenait un aliment recherché à la fin du jeûne du carême et à une époque où il ne dégorgeait pas de mercure ou de matière plastique. Alors certes, le poisson choisi par ce petit inconscient était en papier, mais il n'empêche, autant quand j'avais son âge, j'étais le premier à en coller dans le dos tout le monde, autant aujourd'hui cette obligation de vanne circonscrite au 1er avril me semble pesante et convenue. En un mot, comme en mille, l'inverse de l'humour qui doit vous cueillir par surprise, vous étonner autant que vous surprendre. C'est pourquoi j'ai attrapé le petit farceur par le col pour lui dire d'un ton qui aurait provoqué une fausse couche à une femelle crocodile, va manger tes morts, petit connard, va te faire cuire le cul, espèce d'éricouille de mes demours. Autant vous dire.
Sur France Inter.
Autant vous dire qu'il est reparti avec son poiscaille sans demander son reste. Oui, Franck Dubosc est l'invité de Pop Pop Pop. Au menu de Pop Pop Pop, donc, le slip le plus célèbre de France et de Navarre, après celui de Camille Lacour et celui du maire du Havre.
Qui n'en avait pas.
Bonjour Patrick Chirac.
Bonjour.
Je suis ravi de recevoir Monsieur Chirac. Bienvenue dans Pop Pop Pop. À mes côtés, ma Bernadette à moi. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Antoine, bonjour Franck.
Bonjour. Ouais, joli petit sac à main aujourd'hui. Mm-hmm. Franck, vous venez nous présenter 50-50, votre nouveau spectacle dont nous allons parler dans quelques instants. Mais avant ça, Franck, ici il existe une question. Une question que je pose quotidiennement avec la même voix que Janine de Mercedes et Janine.
Bonjour les hommes.
Et cette question c'est...
Pour vous, c'est quoi Franck Dubosc, la pop culture ?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses dubosquiennes, chiraquistes, poivre et sélisantes, ou même moulburnistes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Karine Viard, avec qui vous avez partagé une formation au conservatoire de Rouen.
C'est quand la culture descend dans la rue, la culture populaire.
Voilà. Et pour vous, Franck Dubosc.
Ah oui, effectivement, c'est très...
Vous pouvez développer un peu.
Oui, mais c'est marrant parce que je n'allais même pas mettre de lettres derrière pop. Pour moi, pop, c'est le bruit d'une bouteille de champagne qui s'ouvre. C'est la culture que l'on consomme sans modération.
Donc une culture plutôt joyeuse et festive.
Une culture joyeuse et festive, comme un bouchon de champagne qui saute. Pop culture.
Attendez, je vous le fais.
Voilà, pour moi, c'est la culture.
On va bien s'entendre. Ne bougez pas. Alors, savoir ce que signifie cette fameuse...
Donc, j'estime que la BD,
oui,
avec ses bulles,
oui,
font partie de la...
À cause des bulles.
À cause des bulles.
Les jacuzzi aussi, champagne. Du coup, non.
Les jacuzzi aussi,
ouais,
oui.
Bien sûr.
Encore mieux.
Très bien. Le shampoing aussi, parfois, non?
Non, bon,
c'est
pas... Hop,
c'est du détergent si ça fait des bulles, Antoine. Il faut faire très attention quand même.
Pardon, hein. Savoir ce que signifie cette fameuse pop culture, voilà donc la noble mission de Pop Pop Pop. Et depuis très précisément 374 émissions, nous cherchons encore et toujours. Franck Dubosc, cette pop culture, on va en parler dans la suite de l'émission, juste après le morceau d'un autre Normand, Aurel San, où il parle de ses grands-parents.
Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc, même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier McFlurry d'un, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. à l'âge où j'ai eu mon premier scooter. Mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur. Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer, avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur. Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin, et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain. Mon grand-père a creusé sa cave à la main, il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « fais pas le malin », et il a des doigts, c'est des bites. À force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques, mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent. Genre rien n'est illégal si personne est au courant. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants. Et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles il y a plein d'objets inutiles fascinants. Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands, qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au corner gagnant. Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas, et les clignotants c'était ses bras. Mes grands-parents croient en l'évangile, leurs enfants ont décidé de laisser Jésus tranquille. Mon grand-père utilise le mot pédé pour dire pédophile. Il s'endort entre les plats comme s'il était sous l'exomile. Mon grand-père a plus de filtre, il raconte les putes à l'armée. Ma grand-mère lui rappelle qu'à l'époque ils étaient déjà mariés. Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer. On fera passer les histoires, laissera pas la mémoire s'effacer.
J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers.
Aurel San, enfin c'est pas lui qui chantait à la fin là, mes grands-parents, cet extrait de son album La Fête est finie. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... ce son qui plaît tant à Franck Dubosc que nous recevons aujourd'hui. Oui, car nous recevons aussi le pilote du vaisseau des frères Bogdanov dans l'émission Temps X, souvenez-vous. Mais qui est cet invité qui est le seul du vaisseau à avoir encore une apparence humaine? Réponse avec son pop-portrait. Alors oui, un pop-portrait, ben c'est votre portrait, Franck, mais... Et c'est signé Charline Rarro.
Aujourd'hui, nous recevons un auteur, comédien, réalisateur qui a hissé le ringard au rang de superstar. Mais alors attention, hein, pas le ringard aigri avec revanche à prendre sur la vie, non, un ringard vantard, heureux, dragueur, hableur et aussi bien dans ses pompes qu'à l'aise avec ses certitudes. Un personnage qu'il habite à la perfection, qu'il se nomme Patrick Chirac, Assurance Tourix, Didier Travolta, Gonzague de Montmirail, Jocelyn ou Pierre, père de boules. Des persos vivant dans leur petite bulle, faite d'un peu de grotesque et de beaucoup d'ego. Une belle brochette de mâle, parfois mignon, parfois très con, ce qui n'empêche pas, de temps en temps, un peu d'émotion. Franck Dubosc porte avec la même grâce et la même décontraction le speedo Marcel Rose que les écailles de Marin, le père de Nemo, poisson clown, parce qu'après tout on ne se refait pas. Alors on nous objectera qu'on est tous le beauf de quelqu'un. Celui que Franck Dubosc incarne dans 50-50 est-il celui du Franck Dubosc de la vraie vie? On a une heure pour enquêter et en rire avec lui.
Et sans oublier quand même dans ce petit portrait, si je me souviens bien, une apparition dans Highlander.
I am Michel de Bourgogne.
Ouais, c'est bien moi.
Magnifique.
C'est bien vous. Oui, oui, c'est bien vos études d'anglais arrêtées au bout de 3 mois qui vous donnent cet accent. Oui,
je me souviens d'une phrase, c'est « So young to be such a buffoon ».
Ah, a buffoon.
A buffoon. Alors oui, parce qu'au début, quand j'ai lu le texte, je disais « so young to be such a... » Comment c'était écrit? Et le mec me disait « Oh, a buffoon ». Et ça m'avait plus « a buffoon ». Jamais je l'aurais dit comme ça. « A buffoon
». Vous avez fait des progrès.
Oui, c'est pas grave. Ouais.
Bon, Franck, dans la pop culture, vous n'aimez pas que ça.
Je suis Rital et je le reste. Non. Dans le verbe et dans le geste.
Non, 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 vous n'aimez pas que le Rital de Claude Barzotti, la preuve avec votre popliste. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une série et une musique. Pour le livre, vous avez porté votre choix sur Le Printemps des Pierres de Michel Peramore, paru en 1983. Charline, petit voyage dans le temps, nous voici au XIIe siècle, au temps des cathédrales. Et non, 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 je vous rassure, je ne vais pas vous demander de nous chanter Notre-Dame de Paris. Quoique...
Non, je peux, on ne me poussait pas.
Parlez-nous du livre.
Il est venu le temps des cathédrales, Antoine. Et dans ce roman, on s'intéresse à ceux qui en sont les réalisateurs. Maître d'œuvre et adjoint, concepteur, soit l'évêque Maurice de Sully, les rois de France, bourgeois et petit peuple ayant investi pour leur salut.
Franck, auriez-vous l'amabilité de chausser vos demi-lunes pour nous en lire un court extrait, s'il vous plaît?
Alors, par chance, je ne suis pas presbyte. Parce que je suis myope. Donc ça a, ça,
t'as l'avantage.
Ça compense. Mais il faut que je trouve la juste, la juste distance qui n'est pas celle du bout de mes bras.
Alors là, il a le bras très tendu quand même.
L'homme s'arrêta près de Vincent, l'observa fixement comme s'il allait lui parler. Sa main droite se leva lentement, puis retomba d'elle-même, et son regard chercha un autre appui. Il vit la plateforme qui l'avait remontée de la fosse redescendre à l'extrémité des câbles de chanvre qui faisaient grincer la flèche de la chèvre. Lentement, il se défit de ses vêtements transformés en carapace de boue, et, tout nu, se plongea avec un gémissement de plaisir dans le cuveau dont l'eau avait à peine tiédi au soleil.
Bien. Franck,
nous n'avons rien compris.
Non, rien du tout. Mais c'est l'importance, vous allez nous expliquer.
Qu'importe.
Pourquoi vous avez un intérêt pareil pour cette romance historique ?
Alors d'abord parce que c'est une période que j'aime beaucoup. Et quand j'étais tombé, je ne suis pas tombé dessus en 83, je suis tombé dessus un peu plus tard, parce qu'en 83, je pense que je ne l'aurais pas lu. Je passais toujours devant Notre-Dame de Paris. J'étais un jeune Parisien, et forcément devant le monument formidable. Et puis un jour, je vois ce roman qui parle justement de la construction de Notre-Dame de Paris. C'est une fiction, je pense. Je sais pas ce qui est vrai. Et là, tout à coup, je le dévorais en allant je ne vais pas dévorer en une journée parce que moi, je suis très long à lire. Et à chaque fois, j'allais autour de Notre-Dame de Paris et je voyais un petit peu, je vivais. C'est-à-dire que tout à coup, c'est la première fois qu'un roman avait des images réelles pour moi. Il ne me demandait aucune imagination, j'avais juste à aller voir cette construction. En plus, on s'attarde sur un jeune homme qui sera, lui, l'homme qui va tailler la porte, qui est la seule chose qui ne restera pas dans le temps.
Ouais.
Donc voilà, et puis j'ai trouvé, c'est une période vraiment où on découvre ces Paris du début, où il n'y a que l'île Saint-Louis, alors on comprend pourquoi il y a toutes ces les branches sur le côté, pourquoi c'est comme ça, c'est on voit aussi le premier avec les Juifs déjà à cette époque-là. Il y a tout, c'est le Paris des débuts, mais c'est une période que j'aime beaucoup parce que moi j'aime bien m'évader dans des périodes qui sont loin de moi, futures ou anciennes, parce que ça m'enlève de tous mes problèmes, de tous mes soucis. J'ai lu beaucoup de choses qui se passaient soit au Moyen-Âge ou un peu plus tard.
Vous avez enchaîné sur le Notre-Dame de Paris de Hugo?
Non,
jamais.
Non.
Ah, mais il faut.
Non. Si, mais je le connais, mais je l'ai pas. Oui. Mais non, c'est parce que j'ai tellement vu j'ai vu tout ça. Donc je l'ai jamais lu, non. En roman, non. Non. Mais j'aime ce livre et je l'ai relu plusieurs fois, deux fois. Mm-hmm. Et ce qui est déjà beaucoup pour un gros roman. Mais je trouvais cette fiction, arriver à faire une fiction autour d'une si belle, un si beau monument, C'était.
Bien.
Et j'aime ça.
Voilà pour le livre. Pour le film, vous avez choisi La planète des singes, sorti en 1968, réalisé par Franklin G. Schaffner. Charline.
Ça veut dire d'après le roman de Pierre Boulle en singe. L'engin spatial américain Icar, parti en 1972, s'écrase après un voyage de 18 mois, mais le 25 novembre 3978 en temps terrestre. Sur une mystérieuse planète peuplée d'hommes primitifs, comme celui qui est à côté de moi, dominée par une race de singes très évoluée.
On ne veut pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains.
Le monde inconnu qu'ils découvrent dans l'espace défie tout ce que l'esprit peut concevoir. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. Où les singes construisent les cités, fixent les lois et les divinités. Possèdent les armes pour chasser les êtres humains terrifiés et traqués au fond des jungles. Quintus Century Fox a porté à l'écran La planète des singes.
Alors, la pilosité, certainement, mais que partagez-vous d'autre avec les héros de ce film, Franck ?
En fait, c'est, mis à part cette fin sublime du premier volume, qui est quand on voit la statue de la liberté et qui s'agenouille devant, on ne sait pas ce que c'est encore, on est au travers des dents de la couronne, et qui dit, ils l'ont lancé, cette putain de bombe, cette scène que je trouve sublime, c'est surtout... Ça vient du fait que quand ce film est sorti, il était interdit au moins de 13 ans, je pense. Mm-hmm. Et moi, je devais en avoir 11 ou 12, il faudrait trouver là. Et il y avait un garçon dans l'immeuble qui l'avait vu, Patrick. Alors, on a attendu Patrick, qui sortait
poursuivi par les Patrick.
Oui. Déjà
oui. Et c'était pour nous, tous les gamins du quartier, ils nous racontaient ce film que nous, on ne pouvait pas voir au cinéma. Donc, c'était un énorme fantasme d'aller voir ce film qui était pour nous le... Et donc, quand je l'ai vu, pas au cinéma, mais à la télévision, voilà, ça a été mon film fétiche. Puis à l'époque, j'étais un grand fan de Charlton Heston. J'avais deux films fétiches, en fait, qui sont Le Survivant et La planète des singes, tous les deux avec Charlton Heston. Et voilà, c'est pour ça en fait. C'est juste parce que c'est un fantasme.
Je vous recommande Soleil Vert et Les Dix Commandements.
Oui, ah ben, j'aime les deux aussi. Oui,
bon, d'accord. Aussi. Alors Franck, nous avons un film, nous avons un livre, il me faut maintenant une série. Et pour les séries, vous en avez choisi une qui fait son entrée dans la pop list et donc Jingle.
Ouah putain, truc de ouf!
Mais oui, truc de ouf, car vous êtes le premier à nous citer ici. Flipper, le dauphin, mais oui, la série créée par Riku Browning et Jack Coden, diffusée en 66 en France. Charline.
Je laisse un petit silence gênant.
C'est le dauphin.
Cette petite... Alors, chez vous, c'est très clair, Franck. Chez Antoine, ça l'est beaucoup moins.
Oui, mais là, lui, il fait un dauphin qui a bouffé une mouette.
Et qui est encore très encombré par la mouette, apparemment. Bienvenue chez les Riggs. Le père porteur et responsable du parc aquatique Coral Key en Floride et ses deux fils s'appellent Sandy et Bud. Ce dernier a apprivoisé Flipper, un dauphin qui vient en aide aux nageurs en difficulté.
Bon, Franck, je vous demande pas si vous avez imité le Flipper. C'est à la perfection.
Mais je me souviens même du numéro de code du bateau W79597.
Pourquoi?
Allô Coral King. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça. Non mais j'adorais ce feuilleton parce que d'abord les gamins, j'avais l'impression qu'ils n'allaient pas à l'école. Mm-hmm. C'est formidable. Oui. S'ils faisaient que du bateau, ils nageaient avec les dauphins, ils n'allaient pas à l'école, ils habitaient dans un endroit où il y avait des palmiers et ils avaient un père super sympathique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait pas de mère.
Non.
Enfin, il n'y avait pas de mère.
Si,
oui, c'est peurs, que oui. De la mère. Oui. Mais il n'y avait pas de maman. C'est pour l'époque, c'est quand même et c'est marrant parce que je me suis jamais posé la question pourquoi ils avaient pas de maman.
Parce qu'ils étaient orphelins.
Alors oui, mais ils étaient orphelins, ils étaient mortes.
Non, je dis n'importe quoi.
Mais
regardez pas, j'en ai aucune idée.
Mais c'est possible parce qu'ils auraient pas parlé de divorce non. À cette époque-là.
Elle était partie avec le plombier, je crois.
Ouais, oui, comme ça. Sale histoire.
Ouais, sale histoire.
J'adorais ce feuilleton. Ouais.
Oui, je vois. Alors terminons cette pop list Franck Dubosc avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci.
Hier encore. J'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur.
Hier encore de Charles Aznavour, sorti en 64.
Donc, je suis pas rock'n'roll dans mes goûts, hein, c'est sûr que...
Aucune importance, mais plus Aznavour que Barzotti quand même.
Oui, Barzotti, non, je suis très très Aznavour, mais parce que aussi, ce sont les premiers disques que j'ai entendus. À la maison, on avait des disques d'Aznavour, donc comme j'avais un petit électrophone, il fallait que je mette des disques dessus, j'en avais pas à moi, donc je mettais Aznavour dessus. Et oui, parce que Hier encore m'a plu quand 20 ans, c'était demain. J'avais 15 ans, qui Hier encore me plaisait déjà.
Toute chanson triste.
Ah, mais toutes les chansons tristes. Je suis très amateur de chansons tristes. Oui. Ça, j'aime
vous
les
d'ailleurs dans le spectacle.
Les chansons. Oui, où je dis j'aime bien qu'on m'enfonce quand je suis triste, j'ai envie qu'on m'enfonce et Daniel Guichard, c'est lui qui a le marteau. Ouais. J'aime Daniel Guichard aussi.
D'amour. Mon vieux.
Et François Feldman aussi.
Et c'est un pote François Feldman. Oui, qu'à moins de mais François Feldman. Non, je suis pas j'aime parce que c'est un copain, mais c'est vrai qu'il a quelques chansons tristes, c'est toujours les chansons tristes des gens que j'aime. J'aime pas trop les trucs qui bougent.
Attendez, François, tout le monde debout, Feldman.
Oui,
oui, c'est ça. Okay.
Évidemment.
Mais d'ailleurs, le titre, c'est à cause de lui. Hein.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Oui. Alors, je résume. Le printemps des pierres, la planète des singes, Flipper le dauphin et Aznavour. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
On ne veut pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains.
Possède les armes pour chasser les êtres humains traqués au fond des jungles.
Car mes amours sont mortes avant que d'exister.
Lentement, il se défie de ses vêtements transformés en carapace de boue.
Une planète où les êtres supérieurs sont les saints.
Où sont-ils à présent? Mes 20 ans.
Voilà ce qui traîne dans la tête de Franck Dubosc en ce 1er avril.
Mais j'ai l'impression d'être à Walt Disney. Un petit côté Walt Disney, côté
vivre dans un
rêve, dans un rêve. Ah, c'est sûr, j'aurais pu dire The Party comme film, mais oui, je me rends compte que je vis. C'est un peu enfantin. Mm-hmm. C'est un peu enfantin.
Ce Small World, l'attraction.
Ouais, un petit peu. Hein. J'ai l'impression d'être dans les couloirs là-bas à Marne-la-Vallée à Euro Disney.
C'est une qualité chez nous.
Oui.
Ah oui. Certainement, l'enfance.
L'enfant, mais j'espère, oui. Mais c'est ce qu'on perd le plus facilement, la candeur.
Mm-hmm. Hein, non, pas ici, vous allez
voir. Non, pas ici.
Les cheveux d'abord, la candeur après. Alors, Franck Dubosc, avant de parler de 50-50, votre nouveau spectacle, où il est question de singes, de dauphins, de cathédrales et de Charles Aznavour, donc.
Vraiment.
Écoutez, Sisyphus, c'est un morceau du chanteur américain Andrew Bird.
Paused. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long.
Andrew Bird dans Pop 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 sur France Inter. André Loiseau, avec ce morceau Sisyphus, cet extrait de My Finest Work Yet. Nous sommes toujours en compagnie d'un des grands séducteurs du cinéma français qui me regarde en ce moment avec sa tête de biais, ses cheveux poivre et sel et ce regard malicieux et coquin. Non, mais regardez pas comme ça, Franck. Arrêtez, ça m'excite. Franck, vous étiez romantique ou à l'état sauvage dans vos précédents spectacles. Aujourd'hui, vous êtes 50-50, c'est-à-dire que vous êtes vieux pour les jeunes et jeune pour les vieux. C'est bien ça?
Oui. Mmh. Oui, c'est vrai.
C'est un peu l'histoire de ma vie. Hein.
C'est, ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est... Mais ce qui est marrant, c'est quand j'ai écrit cette phrase au début, c'était juste pour m'expliquer le truc. Je la disais un peu. Bah voilà, c'est comme ça. Je suis jeune. Je suis vieux pour les jeunes, jeune pour les vieux. Et puis maintenant, à force de jouer le spectacle, je me rends compte que c'est, bah, c'est positif. Que je le dis positivement. Ouais, c'est, ouais, eh, ouais. Oui, oui, je suis potache. Moi, je suis potache. J'aime ça. Tu sais de quoi on parle.
Mmh. On aime ça.
J'aime ça. Et quand on est potache, bah et qu'on a 50 balais, oui, oui, on est vieux pour les jeunes. Mais bordel, on est jeune. On est jeune pour les vieux. Et c'est ce côté-là que je veux prendre.
Et vous répétez tout au long du spectacle que vous avez 50 ans et que c'est très plaisant. Vous êtes plus à l'aise avec la cinquantaine qu'avec les décennies précédentes ?
Non, pas du tout. Et en fait, j'arrête pas de répéter que j'ai 50 parce que j'en ai 55, donc ça me fait du bien. Ça me rajeunit. Tous les soirs, je rajeunis. Et non, c'est juste pour le propos, quoi. Et je suis bien, je le dis, je suis un yaourt en date limite. Je les entends, les nanas. Celui-là, faut le bouffer ce soir. Demain, il est pourri. Mais c'est mes 40 ans que j'ai préféré. Vraiment, oui. la quarantaine, ouais. Parce que 40 ans, on est bien, on sait un petit peu de choses, on sait qu'on sait pas encore mm-hmm. tout, mais on est encore beau gosse, mm-hmm. on en profite et tout ça. Puis 50, on commence. Moi, si je le dis dans le spectacle, c'est horrible, c'est que moi, mon père me l'avait dit, il m'avait dit, tu verras, après 50 balais, il y en a plus derrière que devant. Ouais, c'est une phrase de merde.
Ouais,
c'est horrible. Ouais. Et en plus, il est mort à 65. Il a mm-hmm. toujours voulu avoir raison. Hein. Mm-hmm. C'est horrible, mais bon, il faut vivre avec. C'est surtout pas pessimiste, quoi. Mmh. C'est, effectivement, je passe mon temps à dire que c'est bien parce qu'il faut se le dire que
mais
c'est bien.
Ça n'est pas un spectacle sur la cinquantaine, non. Mais un spectacle sur votre cinquantaine à vous.
Exactement.
Sur vous, et vous dites que c'est un voyage à l'intérieur de vous. C'est pour cette raison qu'il y a un personnage de proctologue, d'ailleurs, sur scène.
Oui, en plus, c'est, oui, quelque part. Ça donne la. Oui, celui que j'appelle mon architecte d'intérieur, mais... le docteur Troukis en arménien. Mais je peux pas, c'est-à-dire qu'effectivement c'est pas un spectacle sur la cinquantaine, heureusement, sinon ça en ferait chier plus d'un, excusez-moi ce jeu de mots un peu maladroit puisqu'on va parler de proctologue, mais j'étais obligé à un moment donné de passer par ce personnage-là. Il y a un moment, un sketch, c'est pas sous forme de sketch, mais une partie effectivement qui aborde le sujet de ce monsieur que je croise,
que l'on croise tous,
que l'on croise tous à partir de 50 ans. Et je dis que je vois, que je sens, en tout cas, derrière moi, et forcément, il fallait que je passe par là.
50-50, c'est être mi-figue, mi-raisin, sec pour le coup, dites-vous. Écoutons la bande-annonce.
Tu sais, à 50 ans, c'est quelque chose, hein. T'es un petit peu comme un yaourt en date limite. Moi, je les vois, les filles, hein. Elles me regardent, celui-là, faut le bouffer ce soir, il est pourri demain. On s'engueule à cause des enfants, c'est structuré. Tout est sujet de dispute, tout. La température de la chambre, la température du bain, le choix du siège bébé, le choix de la nounou. J'ai voulu l'essayer, ça a fait un drame. Bon. Je redécouvre le plaisir des choses simples. Rôter chez le dentiste, uriner dans le lavabo de la salle de bain ou dans l'évier de la cuisine quand il n'y a pas trop de vaisselle.
Franck Dubosc, vous êtes au Palais des Sports de la Porte de Versailles jusqu'au 14 avril avec ce nouveau spectacle dont vous dites qu'il est le plus personnel de tous. Est-ce donc ce qu'il convient d'appeler le spectacle de la maturité ?
Non, c'est que je l'ai dit à chaque spectacle. En fait, c'est ma manière de dire que c'est le meilleur à chaque fois. Mais en fait, je sais plus si je l'ai dit à chaque, mais chacun méritait d'être, enfin méritait que je dise que c'était le plus personnel, parce qu'à chaque fois, il tombait exactement dans la période que j'avais envie de raconter. Alors, en revanche, il est le plus, dans la façon de jouer, peut-être il est le plus personnel. C'est-à-dire qu'il est, il y a beaucoup de choses vraies, énormément de choses vraies dedans, mais il y en a toujours eu plus ou moins. Je parle un peu des enfants, on parle de proctologue. Pour être honnête, j'ai jamais vu de proctologue. Moi, j'ai un gastro-entérologue qui remplace, qui part au même endroit, qui explore le même endroit que le proctologue. Mais c'est le plus personnel, je pense, dans la façon de le jouer, dans la façon d'avoir envie de le dire. C'est-à-dire qu'il est moins... Avant, je calibrais tout, je savais, là, ça faut que ça arrive, dans les 3 secondes, tac, là. Là, attention pour les petits, attention pour les grands, attention pour les vieux. Celui-là, je l'ai fait en essayant avant tout de me plaire à moi, c'est-à-dire de me faire rire moi, chose que je faisais pas forcément sur les autres. Et voilà. Ce qui fait qu'il a beaucoup évolué parce que au fur et à mesure, je me dis ça me fait plus rire ou tiens ça c'est. Alors, il y avait la première étape qui est ça fait plus ou moins rire le public. Donc là, je vais sur quand même ce qui les fait rire, bien sûr. Et puis là, aujourd'hui, je découvre que tiens, ça j'ai moins envie, ça me concerne moins, ça me voilà. Donc il évolue comme ça.
Antoine parlait de maturité parce que certes vous parlez d'âge et de paternité, mais maturité très relative hein, puisque vous le disiez, vous continuez de revendiquer votre droit à la protégerie et vous ne vous privez pas. C'est parce que vous craignez l'esprit de sérieux ou c'est votre vraie nature, vous êtes comme ça au quotidien?
Je suis pas exactement comme ça au quotidien. Je suis pas pipi caca machin tout ça au quotidien. D'ailleurs, il y en a toujours un petit peu dans le spectacle, un petit peu machin. J'essaie toujours de les limiter, d'abord parce que je suis forcé par ma femme, hein, qui déteste vigilante, mais qui déteste ça. Quand elle est dans la salle, mon Dieu, j'ai honte. À chaque, il y a trois proutes, un prout et un ro dans le spectacle. Ro, qui est le moment préféré de mon petit garçon de 6 ans. Je ne me souvenais plus qu'il y avait un ro. Il me l'a rappelé. Je vais peut-être le couper parce que le fait que. Mais j'aime ça. J'aime les deux. Et dans celui-là, ce que j'aime aussi, c'est que de plus en plus, être un tout petit peu politiquement incorrect. Mmh. J'aime ça. Ce sont des moments où tout à coup, je me dis, c'est plus moi d'être politiquement, à ce moment-là, sur scène. J'aurais pas envie de l'être juste par méchanceté, ici, en parlant de quelqu'un ou autre. Mais sur scène, tout à coup, j'ai envie un petit peu d'être un petit peu vache, parce que je sais que j'ai un public aimant. En tout cas.
Mais justement, Franck, la nouvelle scène hein, du stand-up et du one-man show fait souvent preuve de radicalité en retrouvant l'esprit des Coluches, des Proches. Et souvent, l'humour est synonyme de cruauté. Est-ce que l'humoriste que vous êtes est parfois tenté de faire un pas de côté pour sortir de son couloir de nage ?
C'est ce que je fais. Oui, je suis un tout petit peu cruel de temps en temps sur scène. J'essaie de ne pas l'être trop facilement. Je le suis, mais c'est toujours pour dénoncer. Je suis pas là pour ça. Et puis j'ai pas. Mais je sais qu'à un moment donné, je parle de ma passion pour la photo et de ces téléobjectifs que j'ai acheté. Et je rigole. Je dis c'est formidable. Rien qu'avec le prix de ce téléobjectif, on pourrait construire des écoles dans les pays où je vais prendre les gamins en photo dans le caniveau. Et je fais une séance photo avec le gamin. Je dis enlève la mouche là. Puis, gonfle pas le ventre. Il y a rien dedans prétentieux. Hein. Et ce moment où je fais ça. J'aime le faire juste parce qu'il y a des gens dont c'est la passion, ce genre de... Enfin, vous voyez, c'est pas pour dénoncer, mais c'est pour dire, bien évidemment, je suis pas comme ça. Et ou de... Maintenant, j'en rajoute en disant combien de fois j'ai voulu ramener un de ces enfants. Il aurait tellement froid chez nous. Alors, je ramène des magnettes ou des cendriers. Et ça me fait toujours plaisir de glisser un petit derrière. On est tous les mêmes, hein. Et ce petit « on est tous les mêmes » qui fait rire personne. C'est juste pour moi, me fait plaisir.
Vous vous êtes lancé dans ce métier pour être aimé et reconnu. Mais on sait bien que ce genre de besoin n'est jamais tout à fait satisfait. Est-ce que vous vous sentez suffisamment aimé, suffisamment reconnu aujourd'hui ?
Alors, non. Non, mais effectivement, j'ai compris qu'on ne pouvait pas être aimé par tous. D'abord, j'aurais dû le comprendre dès le début, puisque moi, je ne m'aimais pas. J'aurais dû me dire, mais tu vas en trouver d'autres, des toi, qui ne t'aiment pas. Et en vieillissant comme ça, je me rends compte que... Déjà, être aimé par le plus grand nombre, c'est difficile. Et être aimé par ceux que j'aime, je pense que c'est plus un but à atteindre aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas décevoir ceux que j'aime, c'est déjà difficile. Ils sont moins nombreux. Donc, je me sentirais mieux dans ma peau de faire ça. Et de plus en plus, je tends vers ça. Ne pas décevoir ceux que j'aime.
Mais c'est-à-dire que quand on parle de vous comme d'un acteur populaire, est-ce que c'est le compliment ultime ou est-ce que vous entendez toujours une petite dose de condescendance qui vous chagrine ?
Alors franchement, non, je ne l'entends pas. Vous savez, le petit garçon que j'étais à Grand-Quevilly, si on lui avait dit qu'il serait une vedette de cinéma, que ce soit populaire ou pas populaire, j'aurais pas cru. Donc aujourd'hui, je suis un acteur populaire, avec tout ce que ça comporte, hein, populaire c'est beau, hein, je suis bien dans ma peau. Mais moi, pour moi, un acteur populaire... Après, on a tendance à se dire populaire, c'est rigolo. Mais Lino Ventura était un acteur populaire. Alors, il a fait les deux, mais il faisait plutôt des films sérieux, des films un peu graves. Mais c'était populaire. Et pour moi, c'est les grands films, les films populaires.
Non, mais Charline voudrait savoir, en fait, si ça vous embête de ne pas avoir la carte, comme on dit.
Oui, la fameuse carte. Ouais. Très franchement, non, ça ne m'embête pas. Mais si un jour je l'ai... Je la savourerai comme il faut la savourer, mais je ne la recherche pas. Très franchement, je la recherche pas, mais je suis pas contre. Hein. Très, très, très honnêtement, je suis pas contre du tout. Ça doit être agréable d'être aimé par tout le monde, par tout le monde, par ses pairs.
Franck, on va continuer à parler de 50-50, votre nouveau spectacle, dans quelques instants. Mais pour l'heure, c'est le moment des Pop News. Est-ce que vous savez faire ça ? Oui, je sais le faire.
C'est pas la même note.
Non, vas-y.
Le vôtre est beaucoup plus grave.
Vous avez toutes vos dents ?
Oui,
bon. Pop News.
Hot Chip annonce un nouveau titre de manière un peu flippante. Les Londoniens ont posté un teaser sur leurs réseaux sociaux, un teaser faisant entendre un peu de musique, mais pas que.
Baby, like a hungry child, waiting like an angry ghost.
What is this song?
Oh God, it's following us.
Le titre qu'on entend s'appelle Hungry Child. Quant au hurlement qui l'accompagne, pour l'instant, c'est le mystère le plus total. Tout ce qu'on sait sur les délais de sortie, c'est un coming soon et l'album est attendu cette année.
Et un projet qui sent déjà le culte. Baz Luhrmann, réalisateur entre autres de Moulin Rouge et de Gatsby, va s'attaquer à un biopic monstre puisque l'objet de son prochain film, ce sera lui. Ever since I read your Elvis qui sera, selon la volonté du réalisateur, incarné par un nouveau venu, ce qui ne sera pas le cas du colonel Tom Parker, l'imprésario de la star dont le rôle pourrait être tenu par Tom Hanks.
Belle semaine de concert à Paris, demain à la Maroquinerie, lui. Peter Doherty dans le nouvel album avec ses putains m'adresse sortira le 26 avril et qui viendra d'ailleurs très bientôt nous en parler dans Pop Pop Pop. Et jeudi au Trianon, eux. Ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là. Radio Elvis à ne pas rater. Pour vous en convaincre, réécoutez donc l'émission qui leur a été consacrée.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Oui. Dis-moi.
Flipper, c'est une tentative de flipper.
Mais oui.
On dirait une personne en souffrance chez le dentiste, en vrai.
Franck Dubosc. Avant de continuer à parler de 50-50, je vous propose d'écouter un artiste que j'aime beaucoup. Il s'appelle William Bell et le morceau c'est Born Under a Bad Sign.
When I was just a little boy, my daddy left home. He left me and my mama to go it all alone. You know, the times were hard, but somehow we survived. Lord knows it's a mystery to me how she managed to keep us alive. Born under a bad sign, been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Let me tell you, hard luck and trouble is my only friend. Been on my own ever since I was 10. Born under a bad sign, been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all, no. Oh, no. Listen now, I can't read. I didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born under a bad sign. Been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for bad luck, y'all, I wouldn't have no luck at all. Oh, no luck at all, man. I've often heard old folks say, don't give up. When the chips are down, you got to keep on pushing. So I guess I got to keep on pushing. You see, I was down, but I kind of picked myself up a little bit. Oh, and I had to dust myself off. Clean myself up, and now I'm gonna keep on pushing. I can't stop. Wine and women is all I crave. A big leg woman will carry me to my grave. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for bad luck,
Oh, I wouldn't have no luck at all. Oh, no luck at all, y'all. I'm gonna get myself together now. Oh, I gotta keep on pushing, y'all. Oh, it wasn't so bad luck. I wouldn't have no luck at all. I was born in July, and that's cancer. And if that ain't bad luck, glory.
Born Under a Bad Sign, c'est un morceau signé William Bell, et ça date pas d'hier évidemment. Alors vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Franck Dubosc, nous parlons aujourd'hui de son nouveau spectacle 50-50. Franck, nous ne sommes pas ici pour faire de l'analyse sauvage, mais avez-vous compris ce que le public aime chez vous? Qu'est-ce qui fait écho en lui, dans votre travail?
Je pense que c'est... savoir exactement, c'est difficile, parce que sinon je l'exploiterais, et là ça deviendrait moins intéressant. Je pense que c'est peut-être mon amour pour lui. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il vaut mieux que je me fixe comme but de plaire à ceux qui m'aiment, parce que le public sait, vous savez, quand je dis pour toi, public, je t'aime... On le dit tous, les artistes, qu'on aime notre public, on le montre, mais je pense qu'ils savent que... Moi, c'est vrai, d'autres aussi, mais que c'est, oui, c'est réel. Depuis toujours, même sur scène, je fais toujours de longues séances de dédicaces derrière, je les croise toujours, mon Dieu, comme ça me vexe, quand parfois je lis quelque chose, quelqu'un qui me dit, oh ouais, d'accord, ok, tu m'as méprisé, tu ne m'as pas signé d'autographe. C'est qu'en général, et ça nous arrive à tous, c'est que j'ai pas vu la personne. Pourquoi? Parce que Dieu sait que mes enfants me le reprochent. Ils me disent souvent, tu aimes mieux ton métier que nous. Et c'est vrai.
Et on les embrasse.
Ah, et on les embrasse. Et, surtout celui qui me le dit, c'est le grand. Et comme je l'aime moins que le petit. Et, bien sûr que non, je les préfère eux, mais voilà, je pense que, mon public, on n'a pas mon public, mais celui qui me suit depuis longtemps, je pense que c'est ça. Il y a le côté au début, alors on se dit oui, il est populaire, c'est le mec de camping et tout, mais il faut avouer que je depuis le temps, par chance, je gagne très bien ma vie, je travaille, donc ce côté populaire que je montre dans mes films, forcément, je suis passé un peu à côté. Je suis un père de famille. Je suis plus Patrick Chirac. Mais je pense que c'est ce mec qu'ils aiment. Et puis maintenant, peut-être qu'avec Tout le monde debout ou quoi, une autre partie du public me découvre en se disant, ce mec-là, il a une sincérité qui est différente de celle que je croyais. Parce que être Patrick Chirac, c'est pas être sincère. C'est pas moi. C'est plus moi. C'est quelqu'un que j'aime, mais c'est plus moi. Et être celui de le Jocelyn de Tout le monde debout, en tout cas le réalisateur de Tout le monde debout, ça, c'est moi. Patrick Chirac plaît à 5 millions de personnes, Tout le monde debout, c'est 2 millions et demi. Il y en a moins, mais il y en a assez.
Mais alors justement, cette notoriété dont vous parlez, construite, je vous cite, en maillot de bain, elle vous a rendu certes très populaire, mais est-ce que vous avez encore la sensation qu'aujourd'hui elle vous enferme, et pas que dans un camping?
Alors, elle m'enferme pas, parce que elle m'enferme pas, c'est moi qui ai les clés, puisque j'ai choisi de faire mon... Mais c'est une belle cage. C'est une belle cage quand même. Si ça m'enferme, c'est une belle cage. Elle pourrait m'enfermer dans le sens où je me dois de quelque chose vis-à-vis des gens. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais je me dois de quelque chose vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de ceci et cela. Et ce n'est qu'un rôle. Je ne suis pas Patrick Chirac.
Vous n'aimez pas le Benko, en réalité. Dites-le.
En vrai, je n'ai jamais goûté de Benko de ma vie. Je ne mets pas de maillot de bain moulure. Je pense que mon père est plus Patrick Chirac que je le suis moi. Mais en revanche, j'aime l'odeur de la tente. J'adore Jackie. Et puis j'aime les campings, ça c'est vrai. Donc il y a quelque chose, il y a une part de moi. Mais effectivement, mais m'a pas enfermé. Non, comme je vous le dis, voilà, le résumé, c'est si je suis enfermé dans Patrick Chirac, c'est une belle cage.
On fait un métier, Franck, qui repose beaucoup sur la séduction. Et la séduction, comme vous le savez très bien, c'est qu'après avoir plu, on vit dans la hantise de déplaire. Est-ce que vous gardez cela en tête quand vous écrivez? Est-ce que par exemple, vous vous interdisez certains sujets?
Alors, c'est ce que je faisais toujours sur les autres spectacles. Sur celui-là, quel cinquième, non. Je l'ai écrit, mais comme j'ai écrit Tout le monde debout, en me disant, ça passe ou ça casse. Quand j'ai écrit Tout le monde debout, je me souviens, parce que quand le film est sorti, on m'a dit, dis donc, c'est couillu, tu parles d'handicapé. Mais j'avais pas réagi à ça. Moi, j'avais écrit ça comme ça, avec mon cœur. Donc, je me suis dit, puisque je suis plutôt gentil, que ce que je pense est bienveillant, ça va pas heurter. Et puis pour mon spectacle, je me suis dit la même chose. Je vais y aller. Donc j'ai été moins, c'est moins calibré dans ce sens-là, dans le sens, il faut pas que je parle de ça parce que je risque de heurter. Les seules choses dont je ne parle pas, ce sont des choses qui me heurteraient moi.
Mais c'est-à-dire que vous y allez quand même par un biais très surprenant. Quand il est question de paternité, d'éducation des enfants, vous n'y allez pas de main morte. C'est-à-dire que vous n'épargnez pas vos propres enfants, qu'on imagine être racontés dans une version fantasmée. Est-ce que vous comptez montrer un jour ce spectacle à Rachid et Mouloud ?
Ils l'ont vu dimanche dernier. Ils ont vu Rachid et Mouloud, donc mes deux enfants. Oui, il faut préciser que ma oui, comme je le dis dans le spectacle, ma femme est libanaise, donc mes enfants sont à moitié arabes, et je dis à cause d'elle, pardon, grâce à elle. Et mon Dieu, c'est grâce à elle, le vrai mot, forcément. Là, c'est pour rire. Mais ils ont vu mon spectacle, et donc forcément, je dis qu'ils ont deux prénoms, ils en ont qu'un, bien sûr. Oui, ils l'ont vu, mais ils s'en fichent. Ça les intéresse pas, papa sur scène, c'est pas leur... Alors donc, s'il faut que je cherche un public à qui plaire, ça va être eux. Non, en tout cas, eux me montrent bien que je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Parce que si même mes proches ne me suivent... Non, moi, c'est le football pour eux. C'est que le football. C'est le football.
Ce qui peut être drôle.
C'est le football. Moi, je me suis fait engueuler. Ils m'ont demandé pourquoi ils n'étaient pas noirs, comme Mbappé. Et je dis, demande à ta mère. Non, ça, par contre, c'est formidable d'avoir des enfants aujourd'hui, qu'ont des passions et que leurs idoles soient de culture, de couleur. De différentes, parce que pour eux il n'y a pas de couleur, il y a pas de... D'ailleurs, ils m'ont jamais dit pourquoi on n'est pas noir, parce que pour eux, personne n'est noir, personne n'est blanc. Ils sont footballeurs ou pas.
Le personnage que vous vous êtes construit, Franck, ce mytho un peu hâbleur, bravache, il est devenu, le succédant, votre masque, celui qui protège le petit Normand complexé, pas convaincu d'avoir grand-chose à dire, que vous étiez en arrivant à Paris. Vous lui devez tout, qu'est-ce que lui vous doit?
Je pense que je lui dois plus que lui me doit. Mon personnage, je dois tout à mon personnage. Lui me doit absolument rien. Je lui dois tout. Et effectivement, c'est pour me cacher. Je me suis caché, je me cache encore derrière. Et d'ailleurs, au début, quand j'ai commencé à être un petit peu connu, que je faisais un petit peu d'émissions de télé, avec mes producteurs, on s'était dit, est-ce que je suis moi? Ou est-ce que je joue le personnage un peu frimeur? Et on avait décidé, que je jouerais le personnage frimeur, ce qui a en fait installé des choses finalement, parce que tout le monde a cru que j'étais ça, et alors ça a été bien pris d'une certaine partie du public, et puis de la part d'autres, ils se sont dit oh, quel connard celui-là, parce qu'ils se sont dit j'étais celui-là. Mais en même temps, je pensais que le vrai Franck Dubosc, il était pas très intéressant en interview, quoi. C'était qu'est-ce que j'allais raconter, inconnu, j'avais rien à dire, parce que effectivement je trouvais que tout ce que j'avais à dire était inintéressant, que j'étais sans culture, que j'étais sans passé, sans choses intéressantes. Je me suis dit mon personnage, au moins, il va pouvoir mentir et s'inventer des aventures et être plus intéressant en interview. Ça a marché quelque part, puisque le personnage a marché, mais j'en ai gagné certains, j'en ai perdu d'autres. Voilà, c'est tout. J'ai gagné des gens que j'adorais et j'ai perdu aussi des gens que j'adorais, hein. Dans le public, je parle.
Merci Franck pour ces quelques mots. Je vous coupe là. Bon, l'émission n'est pas finie, car il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission, et j'y vais de ce pas. Oh là là, c'est humide là. Oh là, mais ça glisse. Mais c'est quoi cette histoire? Ah oui, d'accord, le Preston d'avril. Un super belle vanne, hein.
Attends, Antoine. Je gonfle mon homard géant, je viens de sauver, attends.
Oui.
Allez, vas-y. Vas-y, on y va. J'arrive, je viens le chercher. Voilà.
Oui, vite.
Allez, monte. Monte sur mon homard. Allez,
monte.
Antoine, tu pèses 3 tonnes, allez, fais un effort, merde.
L'eau est froide, Franck. Il va falloir quelques minutes pour que les bateaux s'organisent. Franck, je t'aime, Franck.
Moi aussi, je t'aime, Antoine. Antoine, fais pas ça. Ne fais pas celle qui me dit adieu, pas ici, pas maintenant. Tu vas t'en sortir, Antoine. Tu vivras longtemps, tu vas faire plein de petits-enfants que tu verras grandir.
C'est froid, j'ai tellement froid.
Tu mourras très vieille, une vieille dame bien de chaud dans son lit. Pas ici, pas cette nuit. Promets-moi que tu m'abandonneras jamais. Promets-le-moi, Antoine. Antoine.
Église, secours.
Bon,
Ah, comme il est plus là pour choisir le dernier morceau de l'émission, il pourra plus nous saouler avec son rock de merde. Allez, hop, Ryan Paris, Dolce Vita, comme un camping. Et je pense que c'est une première sur France Inter, n'est-ce pas?
Dolce Vita dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau signé Ryan Paris, choix de notre programmateur musical du jour, Franck Dubosc. Franck, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous laisser ici comme objet en souvenir?
Je pense que je peux vous laisser le maillot de bain de Patrick Chirac.
Lequel?
Le bleu, avec la petite rayure. Attention, oui, c'est celui de mon père.
Ok, mais je vais le faire encadrer.
Vous avez la clé de la cave?
Oui, bien sûr.
Si
oui.
Jamais je voulais le reporter.
Évidemment,
pour l'instant,
t'inquiète pas,
il peut rester bien au chaud.
Je vais le faire encadrer, vous inquiétez pas, on en prendra grand soin. Ah, merci Franck, qu'est-ce que c'est que ça?
Je ne sais pas, Antoine.
Ah oui, c'est un micro. Merci Franck Dubosc. 50-50, votre nouveau spectacle est à voir au Palais des Sports de Paris du mercredi au dimanche jusqu'au 14 avril, avec une date spéciale à Lyon le 10 janvier 2020.
Oui, et d'autres qui suivent. Hein. On est en train de... Oui, à Bruxelles, on est en train de rajouter plein de dates. Il y en a plus que ça, je crois. Mais
bon,
je
mais tout ça est à retrouver
sur
le site France Inter.
Oui, on est en train de...
FR. Merci d'être venu dans notre studio. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Julien Dumont, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet-Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre nouveau stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, le réalisateur Cédric Clapiche. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme dit le DJ du Shogun à la fin de ses soirées, t-shirt mouillé.
Abonnez-vous à notre podcast et rendez-nous ce vendredi pour la soirée mousse.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 pop pop pop, sur Instagram et Twitter.